Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 4 novembre 2021. Attention, je vais vous parler franchement à propos du tapering. Je vais vous parler très franchement à propos du tapering. Attention, je ne vais pas tarder à vous parler franchement à propos du tapering. Nous réduisons nos achats hebdomadaires de 15 milliards par semaine. Mais attention, nous restons attentifs et prêts à stopper le tapering si nécessaire. Ceci dit, l'économie est en pleine phase de recovery. Nous ne la laisserons pas tomber et l'inflation est toujours, toujours transitoire. Bon, on ne sait pas de combien de temps. C'est clair que ça n'est pas avec un discours pareil que la Fed allait faire peur au marché. C'est probablement le plus gros non-event de ces 10 dernières années. Ça fait des mois que l'on nous prépare à un tapering et le jour où on nous l'annonce, on nous l'explique tellement avec des mots gentils et des si partout et du conditionnel dans tous les coins qu'on n'est pas loin de penser que dans la foulée, Powell baisserait volontiers les taux pour ne pas faire baisser le marché s'il le pouvait encore. En résumé, le tapering est là et tout le monde s'en fout comme de son premier ordre de bourse. Le marché l'a d'ailleurs bien démontré. Avant l'annonce, on hésitait, mais après l'annonce, les trois indices se sont empressés de repartir au plus haut de tous les temps pour la je ne sais plus combienième fois et nous étions au bord de l'euphorie. En Europe, on avait de toute façon passé la journée à ne rien faire en attendant la Fed et ce matin, on va pouvoir retourner vaquer à nos occupations habituelles, à savoir les chiffres trimestriels. Il est étonnant de voir combien les médias sont pleins d'articles sur l'annonce de la Fed, mais qu'à la fin, on se rend compte que l'on a noirci des pages et des pages pour ne rien dire. En effet, ce qu'il faudra retenir de ce meeting du mois de novembre, c'est que la Fed va donc commencer à réduire ses rachats obligataires. En gros, ils vont moins acheter, mais ils vont acheter quand même et le bilan de la Banque Centrale Américaine va encore grossir d'à peu près 400 milliards d'ici juin 2022. 400 milliards qui vont donc continuer à soutenir l'économie et les marchés, à moins que ce soit l'inverse, les marchés d'abord et l'économie ensuite. Ensuite, c'est seulement dans 8 mois que la Fed va éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, remonter les taux de 0,25%. Puis si vraiment tout va bien et que nous sommes en direction du plein emploi et que le PIB américain est en hausse de 8%, alors ils relèveront les taux de 0,25% de plus. C'est un peu comme si on te dit que tu dois te mettre au régime et qu'à la place des 4 petits pains au chocolat du matin, tu dois passer à 3. Pour faire simple, le marché n'en a clairement rien à foutre de ce tapering. D'ailleurs, il était tellement au courant que ça allait arriver que ça faisait bien longtemps que c'était dans les prix. On peut donc passer à autre chose. J'aurais tout de même une pensée pour Jérôme Powell qui a dû se sentir totalement inutile hier soir en observant la réaction des marchés. Pendant que tout le monde était occupé à observer le brassage d'air de la Fed, le pétrole s'est cassé la figure. Lui qui caracolait sur les 84$ il y a encore 48 heures vient de glisser sur la savonnette qui traînait par terre dans la salle de bain et se retrouve soudainement sous les 80. La faute à la conjonction de plusieurs choses qui se sont produites en même temps. Tout d'abord, comme tous les mercredis soirs, depuis la découverte du moteur à explosion, on nous publie les inventaires pétroliers. Il faut savoir que depuis que ces inventaires existent, jamais aucun analyste n'est parvenu à prédire correctement les inventaires de la semaine dernière. Au moins, à l'euro-million, il y a toujours quelqu'un qui finit par trouver les bons chiffres, mais les inventaires pétroliers, ça ne s'est jamais produit. Mais ça n'est pas parce que jamais aucun analyste n'a fait une prévision correcte que l'on aurait arrêté de tenir compte des prévisions des analystes. Non. En plus, avec 35 ans de recul, c'est un peu court pour changer de mentalité. Donc, nous continuons toutes les semaines à nous pâmer de joie ou à hurler de désespoir à chaque ratage. En fait, les mouvements du pétrole sont plus induits par l'écart entre les prévisions et la réalité de la réalité toute seule. Ce qui pourrait être considéré comme une vraie pathologie psychiatrique sur le long terme. Mais passons. Donc hier, les inventaires étaient nettement plus élevés que les attentes. Les analystes ont raté plus ou moins l'équivalent de 2 tankers dans leurs calculs et du coup, le baril était sous pression. Vous rajoutez ensuite le fait que les Iraniens continuent à jouer à la valse à 2 temps. Un coup, je viens à la table des négociations, un coup, je viens pas, un coup, je viens, un coup, je viens pas. Et hier, c'était le coup du « je viens ». Alors, visionnaires que nous sommes, on s'est dit qu'on allait vendre le pétrole parce que si les Iraniens viennent à la table, s'ils ne jettent pas la bouffe au visage du négociateur américain, et s'ils sont d'accord que les USA installent un McDo, un Burger King, un Fried Chicken et une boucherie spécialisée dans la viande de porc sur la place centrale de Téhéran, ils pourraient rouvrir les vannes de la production pétrolière et donc mettre la pression sur le baril. C'était la seconde raison de la baisse. Mais c'est pas fini. Il y avait encore des rumeurs comme quoi certains pays non membres de l'OPEP leur mettraient la pression pour qu'ils augmentent la production et qu'ils fassent baisser les prix. Certains gouvernements ayant peur que les gilets jaunes descendent à nouveau dans la rue. Les bruits de couloir laissent à penser que l'OPEP n'en a rien à foutre des avis des autres pays non membres, mais ça faisait aussi partie de la longue liste des raisons de la baisse du pétrole hier. C'est vous dire s'il n'y a rien à dire pour que je passe mon temps à parler du tapering que l'on connaît depuis 6 mois et de la subtilité mécanique économique qui fait bouger le baril de brut. Pendant ce temps, le Nasdaq aligne sa 5e séance de hausse consécutive et l'or ne fout rien pour sa 64e séance de suite. Ce matin, en Asie, on est à peu près dans le même mood qu'hier aux States. Les mesures prises par la Fed soulagent plus qu'elles inquiètent et donc l'ensemble des marchés asiatiques sont en hausse pour saluer la décision de Powell et ses amis. Franchement, si on nous avait dit il y a 12 mois que le marché irait faire des new highs le jour où la Fed commence à tirer la prise, on n'y aurait pas cru. Enfin, toujours est-il qu'en ce jeudi matin, il n'y a tellement rien à dire parce que la seule chose dont on parle, c'est la Fed et ce, même si tout le monde s'en tape, je me demande bien pourquoi je me suis levé avec 39 de fièvre pour venir quand même écrire une chronique sur du vent, qui est l'abnégation. Côté crypto, JP Morgan persiste et signe en confirmant que selon leurs calculs et après avoir sacrifié des agneaux au dieu de la recherche en crypto-monnaie, le Bitcoin devrait rapidement monter à 146 000 dollars. JP Morgan est convaincu que le Bitcoin est devenu le nouvel hedge contre l'inflation, exit l'once d'or. Pour le moment, tout est calme dans le secteur du et le Bitcoin traite à 62 500, l'Ether est à 4 600 dollars. Dans les nouvelles du jour, on apprend que la Chine va quadrupler son arsenal nucléaire dans les années à venir. On avait bien besoin de ça. D'ailleurs, on en parle peu, mais qui sait ? C'est peut-être l'occasion pour le grabataire de la Maison Blanche pour avoir sa guerre. Depuis le temps qu'un démocrate n'a pas déclenché une guerre, ça serait une belle ligne sur le CV de Biden, le premier président américain qui a attaqué la Chine. On signalera aussi les très bons chiffres de Qualcomm, qui a facilement battu les attentes et qui prenait 7% after close. Par contre, Roku a raté les siens et le titre chutait de 9%. On parle aussi beaucoup de la déconfiture de Zillow, des 7000 maisons qu'ils doivent absolument vendre rapidement et des conséquences que cela pourrait avoir sur le marché immobilier. Pour l'instant, le titre a perdu 40% depuis l'annonce de son changement de stratégie et on continue à nous dire que le marché de l'immobilier est solide comme un roc. Un peu le même discours que l'on nous tenait en 2007. Rien ne pouvait arriver au marché immobilier. Pendant ce temps, Evergrande continue de brader tout ce qu'ils peuvent essayer de lever du cash et de ne pas faire défaut. Mais bon, ça, on s'en fout. On n'est pas concerné. Côté chiffres du jour, il y aura le PMI des services en Europe, la réunion de la Banque d'Angleterre, histoire de voir s'ils font comme les ricains. Et puis ce soir, il y aura les jobless claims. Et comme la Fed est derrière nous, on peut à nouveau se concentrer sur les chiffres de l'emploi américain qui sortiront demain après-midi. Seront-ils à nouveau tout pourris ou seront-ils tellement bon que l'on va passer d'une éventuelle hausse des taux en juin à une en mai 2022, le suspense est insoutenable. Pour les chiffres du trimestre, nous aurons Moderna, Viacom, Regeneron, Barrick, Nicolas, Square, Pinterest, Uber, Airbnb, Peloton, Cloudflare et Fortinet. Et en Europe, on aura AXA, Soggen et Crédit Suisse. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Moi, je vais me faire un grog, 3 quarts rhum, 1 quart miel et une larme de citron. Mais je vous retrouve demain quand même. Très bonne journée à tous.